Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous présentons un labo philosophique avec Charles Goyette et Michel Binet. Le labo s'intitule « Qu'est-ce qui dépend de toi? » Bonne écoute.
Bien, on vous souhaite, oui, bien sûr, on souhaite à tout le monde la bienvenue à notre toute première activité en Zoom, cette période de confinement. Alors, bravo, vous êtes là, vous êtes joints à nous pour rencontrer, disons, quelque chose d'autre, quelque chose de différent de ce qui occupe l'espace médiatique, l'espace public ces temps-ci. Et donc, je me présente Charles Goyette, et je suis, étrangement, quand je me suis joint à l'équipe de Nouvelle Acropole comme bénévole il y a quelques années, eh bien, il y avait une crise, c'était la crise du verglas. Donc maintenant, on est dans une autre sorte de crise. Donc ça a l'air qu'on doit traverser certaines épreuves tous ensemble. Donc ça me fait très plaisir et je salue donc Michel qui est dans une case un petit peu plus bas.
Oui, dépendamment comment vous êtes organisé, vous voyez tout le monde ou si vous voyez celui qui parle, donc il y a différents modes. Donc à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. C'est une première activité avec autant de gens en ligne. Donc, on est très contents. On vous demandera de mettre le micro à mute, si possible. Puis, on va avoir une partie plus tard de questions-réponses. Mais donc, bienvenue. Moi aussi, je suis volontaire à Nouvelle Acropole depuis déjà quelques années. Nouvelle Acropole qu'on va présenter comme école de philosophie à la manière classique pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est une école où on essaie de vivre et d'appliquer la philosophie qui est une tentative, ou plutôt un essai qui fonctionne en fait de ramener les écoles de philosophie, les grandes écoles de philosophie comme on a connu l'Académie de Platon, le musée de Pythagore et bien d'autres qui ont existé. Évidemment, on n'a pas la prétention d'être au niveau, mais on est quand même, je pense, actif et puis on a vraiment une pédagogie à Nouvelle Acropole qui nous permet de vivre la philosophie, qui nous amène à voir et rencontrer les grandes idées et surtout de les appliquer, de voir est-ce que c'est valide, est-ce que c'est concret, est-ce que c'est applicable pour justement avoir à vivre, à faire face à la vie, en fait, aux défis de la vie. Parce que la philosophie, c'est l'art et la science de vivre, en fait. Donc c'est beau. Charles, je ne sais pas si vous avez
ajouté. Oui, très bien. Ben, écoutez, juste pour vous donner le contexte, il y a de ça plus de 62 ans, est née en Argentine l'association philosophique Nouvelle Acropole. Et depuis, eh bien, ce mouvement philosophique a pris de l'envergure et se retrouve avec des bénévoles comme nous ce soir sur tous les continents et avec toujours cet esprit, disons, de dépasser les difficultés, de les vivre avec conscience, de les vivre de la façon la plus lucide possible. Et puis, le contexte actuel qui nous confine tous, je l'espère, ne va pas confiner aussi les idées, mais au contraire que les idées, les grandes idées, vont pouvoir circuler. Et c'est le projet qu'on a pour ce soir. Alors, Michel, je pense qu'on a un petit plan, une petite organisation pour ce soir en termes d'horaire. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, bien, c'est ça. On va commencer au début. On va faire une présentation du thème et puis les idées qu'on veut amener. Ensuite, on aura plus tard une partie questions où on pourra prendre des questions ou avoir un petit dialogue. Il y aura aussi la possibilité d'écrire. Il y a une boîte de chat là, qui va être disponible, donc il y aura possibilité d'écrire. Donc, ça va être... Et ensuite, on va revenir avec l'idée et conclure à la fin. Et on espère que tout le monde reparte avec quelque chose d'applicable et de concret de cette activité, de cette présentation.
Oui. Alors, on se donne peut-être 40, 45 minutes, Michel et moi, pour vous présenter quelques idées fondamentale sur le thème de ce soir. Et puis ensuite, on ouvrira bien sûr à l'échange et au dialogue avec tout le monde. Et je rappelle que notre thème ce soir est « Qu'est-ce qui dépend de toi ?» Alors, qu'est-ce qui dépend de nous ? Qu'est-ce qui dépend de toi ? C'est ça notre thème. Ça, Michel, c'est un thème de philosophie. Alors peut-être je pourrais demander à notre super technicien Pierre de nous mettre la planche PowerPoint sur la philosophie.
Donc, qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui dépend de nous? En fait, c'est une question philosophique fondamentale. Parce que, justement, c'est sur quoi on a un pouvoir dans notre vie, sur quoi on n'a pas de pouvoir. Donc, ça nous amène la question, mais ce sur quoi on n'a pas de pouvoir, parce qu'on peut passer beaucoup de temps à vouloir changer quelque chose ou travailler sur quelque chose dans notre vie, mais on a peut-être un pouvoir là-dessus. On le vit présentement. Avec tout ce qui se passe, le confinement, sur quoi on a un pouvoir là-dessus. Donc, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est victime de tout ça ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, c'est des grandes questions philosophiques.
Donc, puisque c'est philosophique, regardons, Pierre, notre deuxième planche. Voilà. Donc, qu'est-ce que la philosophie ou comment ça se définit? Donc, je crois que c'est bon de retourner aux sources. Et la source étymologique du mot philosophie, ça vient bien sûr du grec, même si en tant que telle, la philosophie est universelle. Mais pour nous, dans nos langues indo-européennes, ça vient du grec philo et sophia, l'amour de la sagesse. Philo, l'amour, sophia, la sagesse. L'amour de la sagesse caractérise les philosophes. Et donc, ça nous interpelle que c'est pas juste une question de réflexion et de travail mental, mais que ça implique aussi le sentiment, puisque l'amour est un sentiment. Donc, c'est quelque chose qui nous met normalement en mouvement quand on parle de philosophie. Et c'est bel et bien le propre de notre association Nouvelle Acropole. Nous sommes en mouvement, nous sommes un mouvement international, en marche, un pas à la fois, une étape à la fois. Espérons-le, vers la sagesse. Alors, il semble, Michel, qu'il y a deux conceptions de la philosophie. Et Pierre, si tu veux avancer à la prochaine diapositive. Oups, la précédente. Ah ben, elle n'est pas là, donc c'est pas grave. Donc, il est question parfois d'étudier la philosophie, comme on pourrait le faire d'une manière peut-être académique, ou de vivre la philosophie. Donc, ce qui nous intéresse de partager avec vous ce soir, c'est cette deuxième approche, vivre en philosophe, qu'on soit homme ou femme, quelles que soient nos conditions, quelles que soient les situations, là où il est possible de vivre, il est également possible de bien vivre.
Oui, si je peux ajouter par rapport à ça, donc philosophia, l'amour de la sagesse, ce n'est pas penser la sagesse, ce n'est pas intellectualiser sur la sagesse, ce n'est pas disserter, discourir sur la sagesse, mais c'est bien l'amour de la sagesse. Donc c'est ce que, comme Charles l'a présenté, ce qui nous met en mouvement. L'amour nous met en mouvement. Si on aime quelque chose, on aime faire quelque chose, on aime quelqu'un, on essaie de connaître, on essaie d'aller vers l'objet de cet amour. Et puis la sagesse qui est cette connaissance des lois et des principes de la nature. De toute évidence, il y a des lois et des principes de la nature. On le voit au niveau physique, c'est assez évident. On prend des objets, on les laisse tomber, il y a une loi de la gravité. Et il y a des lois de l'électrodynamique, il y a des lois de la thermodynamique. Il y a plein de lois. Donc le monde est régi par des lois. Donc, la sagesse, c'est la connaissance des lois de la nature. Mais quelles lois nous régissent? Parce que ce n'est pas que physique. Il y a des lois à plusieurs niveaux. Il y a des lois, tu sais, pourquoi la vie et la mort? Pourquoi on vit et pourquoi on meurt? Pourquoi le temps? Pourquoi? Donc, toutes ces questions sont des lois, en fait, sont reliées à des lois de la nature. Et connaître les lois, ben, c'est fondamental si on veut apprendre à vivre avec ces lois de la nature. Parce qu'imaginez, si on ne connaissait pas bien les lois de la gravitation, par exemple, on ne pourrait pas faire d'avion, on ne pourrait pas faire de tout ce qui permet de voler, en fait. Donc, c'est un peu la même chose avec nous, comme être humain. Il y a des lois qui nous régissent à divers niveaux, même au niveau mental, rationnel, émotionnel. Il y a des lois qui s'appliquent. Donc, ça serait intéressant de savoir, mais quelles sont ces lois et qu'est-ce que je peux faire avec ces lois-là? Non pas pour s'y soumettre, mais pour vivre en harmonie, vivre en accord avec ces lois. Donc, oui.
Michel, on n'est pas les premiers à se questionner sur qu'est-ce qui dépend de nous. C'est arrivé depuis des millénaires qu'il y a des êtres humains, qu'il y a des philosophes. Et là, ce soir, on s'appuie sur une approche philosophique, il y en a tellement d'autres, mais sur une d'entre elles qui s'appelle le stoïcisme. Alors, ouais. Je ne sais pas si Pierre, tu peux avancer la prochaine diapositive. Mm-hmm. Donc, stoïcisme, vous le voyez à l'écran. Le mot est peut-être moins courant de nos jours. Et il provient du grec, le mot stoa, le portique. Et c'est en lien avec l'endroit, le lieu, donc le portique, où Zénon, vous voyez son nom à l'écran, Zénon enseignait, Zénon avait cette relation à l'époque de la Grèce ancienne, à Athènes, il enseignait et il partageait des grandes idées philosophiques avec ses compagnons et ses disciples. Oui, donc Michel, c'est très ancien, est-ce que c'est dépassé parce que c'est très ancien?
Non, Charles, ce n'est pas dépassé. Et okay. on a pris l'école du stoïcisme, qui est une école de philosophie. Pourquoi ce n'est pas dépassé? Ben, c'est lié à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que les lois de la nature sont toujours des lois de la nature. C'est-à-dire que si on apprend à les connaître, on a appris à les connaître à ces époques-là, ce sont les mêmes principes qui régissent la nature. La gravité est la même maintenant qu'il y a 2500 ans, qu'il y a 2 milliards, 3 milliards d'années. Donc, les lois qui régissent la vie, autant de l'être humain que notre vécu, sont les mêmes. C'est-à-dire, ces principes-là sont les mêmes. C'est pour ça qu'on lit encore aujourd'hui ces grands philosophes et qu'ils sont toujours actuels. C'est-à-dire, on lit ce qu'ils nous ont écrit et puis, waouh, c'est toujours aussi vrai. Donc, il y a quelque chose de continu, quelque chose d'atemporel au-delà de l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de se reconnecter à ces grandes idées pour les vivre.
Oui, c'est vraiment une approche que nous avons depuis le tout début dans notre association philosophique à Nouvelle Acropole, c'est de se reconnecter aux racines, de se reconnecter à ce par où la sève peut monter, ce par quoi la sagesse peut de nouveau se manifester. Et ce sont nos racines de sagesse, nos racines philosophiques. Donc, ce soir, on va peut-être s'appuyer un peu plus sur le stoïcisme, mais on pourrait s'appuyer, bien sûr, sur beaucoup d'autres traditions philosophiques, spirituelles, le bouddhisme, Confucius, Platon, enfin, n'importe lequel. Donc là, Michel, je vois que à l'écran, on a Zénon en 336 avant notre ère, jusqu'à un certain Marc Aurèle en 180 après notre ère. Donc, ça couvre toute une période. Et est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire entre cette période très ancienne et nous, aujourd'hui?
Effectivement, ce qu'on peut retirer de ces grands philosophes, entre autres, que l'être humain a vécu des crises, en fait, a vécu des difficultés. On va le lire à travers leurs écrits, mais aussi, ces époques-là, il y a eu des périodes difficiles. On voit ces grands philosophes comme Marc Aurèle, par exemple, qui était empereur, où il a eu aussi à faire face à son époque, qui était comme empereur, il a eu à faire face à une pandémie aussi, qui était
la peste.
J'avais le mot en anglais. Donc, la peste qui va même l'affecter à la fin de sa vie. Donc, pendant plusieurs années, je pense que c'est quelque chose comme 10 millions de personnes qui vont décéder à l'époque de l'Empire romain de cette pandémie. Et lui, par son exemple, va nous laisser un bagage incroyable de comment faire face, non pas au niveau technique, mais au niveau intérieur, c'est-à-dire comment rester stable face à la crise, comment rester stable face aux problèmes de la vie, en fait. Les problèmes de la vie, les crises, les grandes. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas aujourd'hui en 2020 où on vit ce problème-là. Non. Les crises, il y en a toujours eu. Il va toujours y en avoir. Des problèmes, il y en a toujours eu. Et il va toujours y en avoir. Donc, Charles, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre de ces grandes, de ces périodes-là, en fait?
Bien, moi, ce que je trouve intéressant quand on regarde les quatre personnages là, que nous avons mis à l'écran, On a Zénon, qui est le fondateur du stoïcisme. Et puis, on a Sénèque, qui était un personnage politique romain. Épictète, qui était, pour une bonne partie de sa vie, un esclave, tout simplement avec très, très peu de liberté. Il était confiné, mais pas pour 2-3 semaines, mais pour des décennies. Alors, imaginez un confinement pendant des décennies avec torture et tout. Donc, Épictète et Marc Aurèle, que tu as souligné, qui était l'empereur romain. Donc alors, on voit que quand on parle de stoïcisme, quand on regarde ces philosophies anciennes, mais ce n'est pas une question de statut social, c'est pas une question de revenus, de richesse, mais il y a autre chose et qui est quelque chose de beaucoup plus intérieur à l'être humain, qui unit tous ces individus, non seulement les grands noms que nous voyons à l'écran, qui sont les plus connus, mais les gens méconnus, inconnus, comme vous et moi, qui pouvons aujourd'hui, si on le décide, être philosophe, ça veut dire prendre en main notre propre destin, notre propre conscience, et ne pas se laisser balloter à tout prix par les événements extérieurs. Et je crois que pour ça, Michel, on pourrait peut-être regarder une certaine conception de l'être humain, une certaine vision de l'être humain en trois dimensions. Qu'est-ce que tu en penses?
Mm-hmm. Oui, changeons le slide. Donc, il y a différentes visions qu'aujourd'hui, on a un peu perdu de vue, si on veut, de l'être humain. Ou, en fait, l'être humain, qu'est-ce qu'il est à la base? Est-ce qu'on est seulement un corps biologique ou est-ce qu'on est un peu plus subtil que ça? Et ce qu'on retrouve de commun de toutes les philosophies, d'Orient comme d'Occident, c'est que l'être humain a multiples, différentes dimensions. Aujourd'hui, on résume tout à un corps physique. Avec le corps, et là, c'est là que ça se passe, tout se passe. C'est-à-dire, on a un cerveau et le cerveau régit tout le reste et même la conscience est produit du cerveau. C'est ce qu'on affirme aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques par rapport à ça. On ne peut pas trouver la conscience, elle est là et c'est généré de telle façon. Donc, c'est pas prouvé que la conscience existe même, si on veut. Donc, une autre vision, c'est celle où le corps existe, et le corps est là, évidemment, il est physique, il est concret, mais il a aussi une âme et un esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire par âme et esprit, Charles?
Bien, voici, selon ces anciennes traditions et jusqu'à aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, quand on regarde vraiment indépendamment des circonstances, quand on se regarde qui nous sommes, comment nous vivons, ben, on se rend compte que nous avons une sorte d'aspiration à un idéal humain. On aspire, on rêve de quelque chose qui nous unit tous comme être humain, quelque chose qui nous dépasse et qui définit l'humanité. Et ça se trouverait dans le champ de l'esprit, dans le champ spirituel. Et outre le corps physique que nous avons, et même si là, on est en Zoom, mais on sait tous que physiquement, nous sommes chez nous, dans nos salons, dans notre cuisine. Entre les deux, entre ce grand rêve, ce grand idéal spirituel et cet outil physique que nous avons, eh bien, il y a un intermédiaire, une âme, donc quelque chose qui à la fois comporte des émotions, des sentiments, et puis des réflexions et des idées. Donc, il y a quelque chose d'intermédiaire, quelque chose de sur quoi on a un pouvoir, quelque chose qui finalement dépend de nous. Et c'est ça qui va nous intéresser ce soir dans l'activité. Qu'est-ce qui dépend de nous? Ben, essentiellement, le grand idéal humaniste, il existe en lui-même et il ne dépend pas de nous. Il est là. Il est là depuis toujours. Depuis l'époque de Socrate, depuis bien avant, on disait, nous rêvons d'être citoyens du monde. C'est encore quelque chose qu'on utilise comme expression aujourd'hui. Eh bien, à l'époque de Socrate, lui-même se déclarait citoyen du monde et non pas simplement un particulier, disons, qui vit une vie séparée des autres. Et puis, donc ça, c'est la partie spirituelle, la partie de l'esprit qui nous est commune et qui nous unit tous en théorie. Le corps, Eh bien, nous l'avons tous, bien sûr, parce que si on n'a pas le corps, on ne pourrait pas se voir maintenant, on ne pourrait pas se côtoyer maintenant. Donc, la partie sur laquelle, la partie qui dépend de nous, c'est ce que les anciens appelaient l'âme, ou dans le monde latin, la psyché, d'où la psychologie, donc la psyché. Donc, cette dimension de l'âme est celle sur laquelle nous avons un pouvoir. Ça veut dire, semble-t-il, Michel, si je comprends bien, qu'on pourrait diriger, on pourrait avoir un pouvoir, on pourrait donner une direction à nos pensées et à nos émotions, par exemple. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, exactement. Donc, il y a l'aspect en nous qu'on pourrait appeler l'esprit ou l'être ou qui l'on est réellement, qui est constant, en fait. Donc, symboliquement, ça veut dire c'est l'être, c'est-à-dire qui l'on est, qui est constant depuis qu'on est né jusqu'à maintenant. Et qui sera toujours là, mais à travers tout ça, il y a des changements à chaque jour, même nos émotions, notre état d'âme, on le dit même dans le langage populaire, c'est-à-dire que notre état d'âme change, nos idées changent, les idées qu'on a présentement ne sont pas les mêmes qu'il y a, en tout cas normalement, il y a 10 ans ou quand on avait 10 ans, donc les choses changent, donc tout ça n'est pas, comment je dirais, est temporel, si on peut dire. Ça change dans le temps en fonction de plusieurs circonstances. Donc, on voit que c'est cette partie-là qui est dont l'âme, donc la racine est psyché, hein, qui donne la racine de tous les mots comme psychologie, psychisme, et tout ce qui était ce monde intermédiaire entre l'être, qui l'on est, l'esprit, et le corps physique. Donc, c'est lui qui peut être ballotté par les vents, c'est-à-dire de nos émotions. Et les émotions peuvent être affectées par ce qu'on vit extérieurement. Donc, tout le travail, et tu me t'ajouteras, Charles, que bon, on doit voir, mais qu'est-ce qui est dans tout ça, au travers de tous ces mouvements-là, ben, comment faire pour calmer tout ça? Comment faire pour être plus stable qu'au-delà de tout ce qui change? Ben, comment arriver à être stable intérieurement? Et ne pas être emporté par les vents, par les tourments, peu importe, qu'on reçoit ou qu'on peut vivre.
Ah, ben oui, là, je comprends, parce que tu nous décris qu'il y a des événements extérieurs, il y a des situations inattendues qui viennent nous affecter, qui viennent nous provoquer en nous certaines émotions, et parfois même, on dirait qu'il y a des idées, qu'il y a certaines opinions qui circulent. Et ce sont des courants d'opinion, et on pourrait se laisser emporter dans ces courants d'opinion. Donc là, ce que nous propose la philosophie, c'est bien sûr, on constate qu'il y a tout ce monde émotionnel. Bien sûr, il y a tous ces courants d'opinion, mais on devrait chercher à récupérer notre propre vie intérieure. Notre vie intérieure, notre dimension d'intériorité. Qui suis-je, moi? Quelle est la finalité? Quelle est ma finalité dans la vie? Comment vais-je l'accomplir? C'est quelque chose qui nous soit propre, qui nous soit intérieur. Parce que les forces extérieures peuvent être très grandes et on peut y consacrer beaucoup de temps. Et finalement, c'est du temps mal investi. Alors, il nous arrive de ces temps-ci, à Nouvelle Acropole, nous continuons des cours. On a des cours, on a toutes sortes d'activités. Et il nous arrive des étudiants, des gens qui nous disent, j'ai plus de temps parce que je suis en télétravail, donc je suis content, j'ai plus de temps. Mais bizarrement, j'arrive toujours pas à laver ma vaisselle. Mais bizarrement, j'arrive toujours pas à faire mon lit. Donc, c'est pas parce qu'on a plus de temps qu'on réussit à mettre de l'ordre ou à appliquer une discipline. Donc, c'est vraiment intéressant de le constater, d'observer que le temps en lui-même n'est pas suffisant pour régler les choses dans notre existence, mais qu'il faut y appliquer une autre dimension, une dimension intérieure. On peut l'appeler la volonté, on peut l'appeler l'intelligence, on peut dire plus de discipline. En tout cas, il y a quelque chose qui doit naître de nous pour faire du temps disponible quelque chose qui prend une valeur beaucoup plus grande que si on laisse aller. Donc, imaginez-vous le pouvoir dont nous disposons en nous et que nous sous-exploitons parce que on a du temps et puis des fois on se laisse vraiment aller. Alors Michel, je pense qu'il y a quand même des moyens aujourd'hui technologiques et autres qui peuvent devenir presque des... on peut presque dilapider des soirées entières avec des réseaux sociaux ou des choses comme ça, non?
Oui, c'est ça. Le risque... un des risques, c'est de tomber dans la distraction. Parce que, si pour mettre un mot sur ce que tu dis, ça veut dire qu'on a... On peut vivre quelque chose et ce qui se passe présentement est tomber dans l'excès, c'est-à-dire de distraction, peu importe, mais oubliant de tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là, en fait, comme être humain? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et on peut tomber aussi dans, c'est-à-dire de, j'hésite à employer le mot, mais ça serait un peu la victimisation, dans le sens que je ne peux pas rien faire parce que je ne peux pas sortir, je ne peux pas... j'ai pas le temps, là, c'est plus une excuse, mais aussi ça peut être ne pas voir qu'on peut faire quelque chose. En fait. Donc, ça revient à pourquoi on est là, en fait, pourquoi on vit et quel est le sens de notre vie. Donc ça ramène à ces questions mais essentielles, c'est-à-dire on peut mettre de l'ordre non seulement physique, en profiter pour mettre de l'ordre physiquement, profiter du moment pour mettre de l'ordre, mais aussi réfléchir qu'est-ce qui est important pour moi, en fait. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Essayer d'être plus libre, en fait, de se libérer, parce que qu'est-ce qui va changer? Bien, tout ce qui est extérieur, on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Tout ce qui est même sociopolitique, la température, la pluie, le beau temps, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, est-ce qu'on vit comme il fait pas beau, donc je fais rien? Où est ma liberté dans tout ça? Comment j'arrive à trouver une liberté? Et à construire une stabilité qu'au-delà de ce qui se passe, j'arrive à dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Vers où je m'en vais? Et justement, c'est une bonne question. Vers où, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Où est-ce qu'on s'en va dans la vie? Pourquoi on est là?
Oui, très bonne question. Je propose pour une amorce de réponse à cette interrogation sur où on s'en va, de passer à la prochaine diapositive, prochaine planche, sur la conscience. C'est-à-dire que parfois on se demande c'est quoi la conscience, elle est où la conscience? Écoutez, comme philosophe, à la réflexion et à l'étude de toutes ces anciennes philosophies qui considèrent l'être humain comme corps, âme, esprit, ce que toutes ces philosophies nous présentent, c'est que nous, le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir sur notre propre conscience. Vers quoi allons-nous diriger le regard de notre conscience? Imaginons pour un instant, si notre conscience se trouve dans l'âme, entre le corps et l'esprit, eh bien cette conscience peut regarder vers le bas, vers le monde matériel, et s'inquiéter bien sûr de la situation matérielle, ou s'en réjouir. Le monde matériel est le monde de l'impermanence, comme l'expliquait le Bouddha. Donc, c'est un monde changeant. Alors, du jour au lendemain, on peut être joyeux ou déçu parce que les choses sont en train de changer dans le monde matériel. Par contre, le regard de l'âme, le regard intérieur de l'âme, peut se tourner, cette conscience peut se tourner vers le haut, peut se tourner vers l'esprit, peut se tourner vers des idées qui ne sont pas épuisables à travers le temps, des idées qui dépasse, qui transcende le temps. Et alors, on retrouve une sérénité, ou en tout cas, on se relie à quelque chose de durable, quelque chose qui est atemporel. Et là, quand on écrit notre grand titre, « Qu'est-ce qui dépend de toi? » Michel, je pense que notre conscience, vers quoi on dirige notre conscience, c'est une clé.
Si on dirige notre attention, notre conscience vers, comme Charles l'a mentionné, vers le bas, c'est-à-dire vers ce qui est périssable selon les traditions d'Orient, c'est-à-dire le corps physique. Le corps physique ne sera pas toujours le même. Demain, on peut avoir un accident et on tombe paraplégique. Donc, si on se définit par le corps, ça va être difficile. Et puis, par l'aspect extérieur, c'est-à-dire par mes possessions, la maison, la voiture. Donc, la stabilité n'est pas là, la permanence n'est pas nécessairement là. Donc, il y a quelque chose d'autre, là, comme Charles l'a mentionné, c'est-à-dire qu'il faut regarder vers ce qui est atemporel, donc vers ce qui est éternel, parce que c'est vers l'être, vers la partie plus de l'esprit, on peut l'appeler comme ça, où ben, c'est là la stabilité. C'est là qu'au-delà des changements, mais il y a une stabilité qui est en haut, en fait, qui ne change pas, qui est durable, et qu'on peut vivre selon ces principes qui sont, qu'on va appeler, par exemple, dans le stoïcisme, les vertus de l'âme, on dit. Donc, c'est ce pouvoir-là qu'on a, en fait, vers où on dirige notre conscience, vers ce qu'on a perdu. Ah, ben, j'ai perdu, je me suis fait voler ma voiture, bon, ma vie est finie. Ou je me dis, bon, pourquoi m'en surprendre, comme diraient les stoïciens? C'est normal, ça va arriver. Et je vais perdre des choses. Tout ce qui est physique, on va disparaître. C'est tout ce qu'on voit ici au niveau matériel, à part peut-être le plastique, mais le reste, dans 1000 ans, il n'y aura plus rien de là, encore moins nous. Donc tout ça n'est pas durable. Donc, si on base notre conscience, on observe bien, sur toutes ces choses-là, bien, voici ma vie, bien, on peut les perdre du jour au lendemain. Donc, c'est ça notre liberté. Dis-moi si je me trompe, Charles.
Non, je pense que tu es parti sur la bonne traque et en plus, ça nous confère beaucoup de pouvoir parce que indépendamment de notre situation matérielle, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on vive ici au Québec ou qu'on vive ailleurs dans le monde, eh bien, on peut tous, si on le décide, se relier à quelque chose de plus grand, quelque chose qui est un archétype, quelque chose qui est universel et qui appartient au monde spirituel, des vertus, ainsi de suite. C'est pour ça que je trouve que dans les personnages du stoïcisme qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit Épictète ou Marc Aurèle, ils sont comme d'un bout à l'autre du spectre de la liberté physique, parce que un est esclave et l'autre est empereur. Eh bien, l'un comme l'autre sont inspirants parce qu'ils ont tenté de leur mieux de vivre des vertus, vertus du courage, vertus de la rectitude, vertu d'une quête réelle de sagesse. Donc, ce sont des vertus qui sont inspirantes, peu importe l'époque dans laquelle on se trouve. Et c'est une des grandes richesses de la philosophie de nous permettre, à n'importe quelle époque, de se relier avec nos frères et sœurs humains de n'importe quelle autre époque, de la mesure où ils sont des exemples de vertus, ou en grec de arrêter, Aristos, donc ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. Et Michel, je pense qu'on a une autre planche sur notre diaporama concernant la conscience. Voyons voir. Libre ou prisonnière, donc oui, mais si, si tu veux reculer encore juste une pièce, s'il te plaît. Avance, recule. Bon, bouge plus.
Avance.
Donc, retourne avec libre ou prisonnière, là, s'il te plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous fait libre? Qu'est-ce qui nous fait prisonnier? Ben, dans les faits, c'est nous-mêmes. C'est pas les autres. C'est nous-mêmes. Il y a eu plusieurs très grands philosophes dans l'histoire. On pense à Hypatie d'Alexandrie. On pense à Giordano Bruno. On pense bien sûr à Épictète, à Socrate, qui ont rencontré des épreuves telles que ça mettait en jeu leur intégrité physique et qu'ils ont même été condamnés à mort ou tués. Et que malgré ce poids qui pesait sur eux, sont restés vertueux, sont restés fidèles, si on peut dire, sont restés vrais par rapport aux plus hautes vertus qui les inspiraient et qu'ils vivaient. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut transposer aujourd'hui dans notre monde, dans un monde où peut-être on a tendance à croire que les circonstances nous définissent, que les circonstances nous empêchent, que si on avait plus d'argent, on pourrait résoudre plus de problèmes. Si on avait plus de temps, on pourrait faire plus de choses. Et puis, finalement, on se rend compte que, OK, on en a plus de temps, puis non, on fait pas plus de choses. Et que parfois, ceux qui sont les plus riches, que ce soit des pays riches ou des individus riches, eh bien, lorsqu'ils sont confrontés à une maladie mortelle, eh bien, il n'y a plus rien à faire non plus. Donc, l'argent n'achètera pas un ticket vers la vie éternelle, disons. Ça prend autre chose que ça. Et d'où, je trouve, Michel, l'importance de cette conception qu'on a vue tantôt de corps, âme, esprit. C'est-à-dire quelque chose qui nous dit, OK, quelles que soient tes circonstances de vie, ta situation de vie, tu peux être toi-même, tu peux marcher vers toi-même, te réaliser, exprimer le meilleur de toi, et puis être libre, finalement, quelles que soient les circonstances.
Oui, ça nous donne une liberté. Et puis, les stoïciens vont nous dire, ce n'est pas les événements qui sont... C'est pas dit comme ça mot pour mot, mais en gros, ce n'est pas les événements qui nous affectent, mais l'idée qu'on a sur les événements. Donc, ça nous ramène à nous-mêmes, de quelle idée j'ai sur les événements qui se passent. C'est ça qui va générer une émotion, c'est ça qui va générer une colère ou un stress. Bon, ça a l'air facile à dire. Intellectuellement, on peut tous s'y relier. Ah oui, c'est vrai quand on y pense. Mais lorsqu'on le vit, c'est pas aussi simple. Donc, c'est pour ça que la philosophie est un chemin et non pas seulement lire et ouais, ça y est, j'ai compris. Non, il y a une pédagogie pour y arriver à ça. C'est-à-dire, il y a une application. C'est-à-dire, au travers des événements de la vie, c'est ce qui est intéressant. Tout ce qui arrive, bien, va nous faire réagir. Et donc, ces réactions-là devraient être des opportunités pour nous, bien, de dire, bien, qu'est-ce qui réagit en moi? Pourquoi je réagis face à ça? Donc, et là, ça devient un peu une recherche, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que je vais trouver derrière ça? C'est-à-dire, ah, il y a peut-être un préjugé, une idée préconçue. Il y a peut-être quelque chose, l'attachement à quelque chose. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais le point, c'est que ben, on peut tranquillement dénouer des choses et finalement, ah ben, peu importe les événements, ben, je peux me libérer et voir que ben, finalement, la crise que j'ai vécue me libérait de quelque chose. C'est pour ça que le mot crise aussi, dans plusieurs traditions, est lié à crise et occasion, ou crise et opportunité. Donc, c'est comme une occasion de mettre le doigt sur quelque chose. Je vis quelque chose de difficile, pourquoi? Alors, je peux être très bien pris par ça et je ne pas voir tellement que la crise peut m'affecter. Donc, c'est pas aussi simple, comme je le disais, ce n'est pas de banaliser, au contraire, c'est de voir que des choses vont nous affecter. Et avec compassion, dire, bon, OK, ça m'affecte, j'admets, et voir qu'est-ce que je peux comprendre de ça. Est-ce que c'est une bonne avenue, Charles, de voir ça comme ça?
Oui, je voudrais quand même puisqu'on est dans un labo philo, un laboratoire philosophique, je pense que ce que tu nous dis vaut la peine d'être réitéré et qu'on se le donne comme exercice, nous tous qui sommes là ce soir, qu'on se donne exercice pour les prochains jours et aussi longtemps que vous voulez le faire. C'est-à-dire que ce que tu nous décris de cette tradition du stoïcisme, ils nous disent, ben, c'est pas tant les choses en elles-mêmes qui nous affectent, c'est pas tant les événements en eux-mêmes qui nous affectent, sinon que l'opinion que nous en avons. Alors si, bien sûr, comme tu le décrivais tantôt, si je me suis fait voler ma voiture, si je suis pris en confinement, ben, ça c'est un événement. Ensuite, quelle opinion je m'en fais, quel jugement je porte là-dessus, c'est ça qui peut me causer de la souffrance, ou au contraire, je peux me sentir relativement libre par rapport à ça, parce que je n'avais pas l'attachement, ça c'est plus le bouddhisme, mais quand même, je n'avais pas l'attachement total, fusionnel avec ma voiture ou avec mon emploi ou avec peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, je pense que ça peut être un bon exercice pour nous d'essayer de voir, bien, quel genre d'opinion nous portons que sur les événements de notre propre vie, sur les situations de notre propre vie, est-ce que c'est un point de vue plus élevé, un point de vue un petit peu dégagé, ou alors on se laisse comme emporter, on se laisse absorber, hypnotiser par les choses, les événements de notre existence et les circonstances qui nous entourent, spécialement en cette période, bien sûr, mais dans n'importe quelle autre période, ça s'applique de toute façon.
Donc, c'est ce qui va nous amener un travail intérieur, c'est-à-dire une réflexion intérieure, de prendre le temps de réfléchir et de se poser la question, comment je le vis. Donc, ça nous amène à apprendre à se connaître et à travailler avec soi-même. Si on est angoissé, stressé, commencer à se questionner sur pourquoi, qu'est-ce que je vis, pourquoi que c'est dur, ça peut être pas le bon moment, donc va falloir apprendre à travailler, peut-être falloir que je me calme un peu, j'aille marcher, j'aille courir un peu, je reviens, et là, je me... Donc, on peut avoir un pouvoir aussi là-dessus, sur ce stress-là. Donc, Donc, on ne se laisse pas prendre par cette boucle. Donc, c'est un excellent exercice, Charles, comme tu le mentionnes, de se questionner, de faire cet exercice.
Oui. Et donc, on pourrait aller à notre prochaine planche, Pierre, si tu veux bien. Donc, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Donc, si tu veux juste avancer. Et on peut dire, au fond, que nous avons un pouvoir, nous pouvons exercer, nous pouvons décider, nous tous, d'avoir un pouvoir, d'une part, sur notre bien-être physique, puisque même si nous sommes en confinement, présentement, rien ne nous empêche de faire de l'exercice. On le continue d'ailleurs avec l'équipe ici à Nouvelle Acropole. On fait des séances d'exercice le samedi matin en Zoom. Donc, chacun peut, bien sûr, continuer de maintenir la santé du corps, c'est important. On peut aussi se donner un exercice, un rythme de vie, donc pas simplement laisser les choses aller d'une manière plus ou moins aléatoire, laisser le temps filer entre nos doigts, de se donner des objectifs dans la journée. Donc, ce sont des bons exercices pratiques là, de la vie quotidienne. C'est-à-dire, bon, ben, je vais quand même me lever à l'heure que j'ai prévue. Je ne vais pas faire des snooze là, jusqu'à très tard. C'est intéressant de voir comment on peut travailler avec notre rythme, avec notre énergie, notre temps. Et puis, bien sûr, si on monte d'un étage avec les émotions, est-ce qu'on se donne la chance dans notre journée de ne pas être absorbé ou submergé par l'ambiance qui peut être un petit peu déprimante hein, si on suit que l'actualité? Donc, on peut diriger ou offrir à notre monde émotionnel, à notre vie intérieure, par exemple, quelques moments de belle musique, comme on a fait juste avant le début de l'activité. Il y avait du Beethoven, il y avait des belles musiques là, pour se faire du bien émotionnellement. Donc, il faut qu'on le décide. On dit, ben oui, je vais faire ça. Et puis, bien sûr, au niveau plus mental, au niveau plus de la réflexion, ben, se donner la chance aussi d'avoir de bonnes lectures, des lectures philosophiques, des lectures des classiques ou des activités Zoom, comme on fait ce soir, qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent à amener la conscience vers d'autres considérations que la seule survie matérielle. Donc, je crois qu'avec ces quatre dimensions-là, on a beaucoup de choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous pouvons exercer notre souveraineté, notre pouvoir humain. Et voilà, donc c'est la proposition qu'on se fait. Est-ce que ça se passe bien?
C'est ça, elle est là, notre liberté. Donc, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se laisse aller? On choisit de faire ce travail-là. Parce que le reste, s'il y aura un nouveau virus demain, s'il y aura une crise économique, si on va se faire voler, on va perdre quelque chose. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, de toute façon, pourquoi s'en faire avec ça? Vas-y, Charles.
Oui. Donc, voilà. Donc, on voulait vous présenter ces quelques idées, je crois, simples à comprendre, mais peut-être pas si faciles à mettre en application. Et peut-être il serait temps maintenant d'ouvrir à des questions que certains auraient pu avoir au cours de l'activité. On ne veut pas faire une activité trop longue, on veut que ce soit avec une bonne densité. Donc, peut-être, là, on pourrait ouvrir aux questions. Je crois que c'est par le chat, Michel.
Ou direct, là. Ou juste, direct. C'est ça. Ceux qui veulent parler, allez-y. Vous avez des commentaires, questions aussi sur ce qui se passe et en lien avec le thème. Et voilà. Tous en même temps.
Oui, moi, oui. J'ai une question.
Après ça, Didier, j'ai vu Didier lever la main.
Oui, Andrea.
Oui, Andrea.
Donc, au début, puis avant, quand j'ai allé à l'école, on parle beaucoup des lois de la nature et on doit s'aider. C'est une façon de vivre mieux, puis mieux se comprendre, puis tout ça. Et on dit beaucoup les lois de la nature. Vous, Michel, vous avez fait l'exemple de la gravité. Mais c'est là, cette idée-là des lois de la nature, et moi, je viens faire une recherche vite faite. C'est trop général et trop vague dans ma tête. Donc, ça serait quoi, s'il vous plaît, les lois de la nature?
Ben, c'est une question effectivement large, en fait, parce qu'il y a plein de lois. Les lois, on va les découvrir au niveau philosophique, on s'entend. Mm-hmm. Physique, c'est une chose, c'est un plan, mais il y a plein de plans de la nature. Et puis, apprendre à connaître ces lois, ben, ça se fait tranquillement. Et puis, il faut les vivre pour savoir ben, comment ça fonctionne. Et puis, mais il y a des choses qu'on peut rencontrer en soi, déjà de vivre, perdre quelque chose, justement. Mais déjà, on peut comprendre, mais si on est en colère, j'ai perdu, je sais pas, mon travail ou je sais pas quoi. Tu sais. Déjà, ben, de se questionner, mais est-ce que c'est permanent? Déjà, une loi, ben, il n'y a rien qui dure, il n'y a rien qui est éternel, il n'y a rien qui. Tout change, tout se transforme. Donc, si je suis en colère contre ça, c'est comme être en colère contre la gravité, ça ne sert à rien. Tu sais. Bon, je caricature, mais le point, c'est y a plein de choses qu'on vit au jour le jour qui nous amènent, qui peuvent nous amener à prendre contact avec un principe de la nature. Les choses ne durent pas, qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Par exemple, dans la gestion du temps, je ne peux pas faire 50 choses en même temps. Il faut que je me concentre, il faut que j'apprenne à me concentrer. Donc, on peut se fâcher et dire, ben, j'aimerais tout faire en même temps et puis faire ça comme ça. Ben, non. Mm-hmm. Si tu veux continuer à aller dans cette voie-là, ben, à un moment donné, tu vas te rendre compte par toi-même que non, je ne peux pas. T'sais. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça.
D'accord. Et pour
ça, les grands philosophes nous donnent beaucoup d'indications là, sur ça.
Oui, entre autres, vous pourriez vous intéresser dans l'hindouisme, lorsqu'on parle du karma, qui veut dire faire ou qui veut dire action. Le mot karma veut dire action. Donc, ils nous disent que toute action engendre des conséquences ou des réactions. Donc, ça veut dire que nous avons un grand pouvoir, si on décide, de nos actions, de choisir nos actions, parce que selon les actions qu'on choisit, eh bien, ça va avoir des conséquences ou des réactions qui vont déterminer d'une certaine façon ou influencer notre avenir. Donc, c'est vraiment intéressant d'appliquer cette loi du karma et de se dire au quotidien, ben, est-ce que je suis en train de bien choisir, disons, nos actions, nos pensées, bien sûr, nos sentiments, parce que tout ça va avoir des conséquences sur notre propre vie et sur celle de la société, en fait.
D'accord, c'est bien. C'est bien. D'après ce que j'ai compris, on les vit. D'après ce que vous avez dit, on les vit tous les jours, dans tout temps. Mais est-ce que on pourrait trouver un livre dans lequel on pourrait comme lire un peu par rapport à ça, puis identifier chez soi toutes ces genres de lois?
Ben, j'ajouterais seulement la philosophie et les grandes sagesses d'Orient comme d'Occident. On lit Platon, les grands, qui vont nous renseigner sur des lois, mais aussi la pédagogie. C'est pour ça qu'on a une école de philosophie, c'est-à-dire que ça nous permet de gagner du temps, de ne pas avoir à vivre les erreurs ou les mêmes choses que d'autres ont fait avant nous, mais d'aller plus vite. Ben, lui, il nous dit ça, puis ça ne veut pas dire de croire ce qu'il nous dit, va falloir le vivre aussi un peu, ben, pour ça, comment je dirais, voir qu'elles sont valides et puis dire, ben oui, ça a du sens. Et donc, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs que d'autres sages ont fait pour dire, ben finalement, ouais, il avait raison après 10 ans que je tourne en rond. J'exagère, mais donc on peut, d'où la philosophie, mais on peut la lire, mais c'est pas suffisant. D'où une école de philosophie qui offre une pédagogie qui nous permet de gagner du temps, en fait.
Oui, tout à fait.
Merci pour la question. Je crois qu'il y avait Didier, oui, qui avait une question.
Oui, bonsoir à tous et merci pour l'intervention. En fait, je me demandais si vous pouviez nous partager votre routine pour travailler vos vertus, outre le bilan de fin de journée, en fait, où on remémore un petit peu ce qui s'est passé, de voir où est-ce qu'on en est dans nos réactions par rapport aux événements du quotidien. Est-ce que vous avez une routine particulière qui vous permet peut-être une sorte d'assaise sur les vertus?
Oui, merci de la question. C'est important, je pense, de partager nos expériences de tous les jours. Et on n'est pas les premiers, puisque à l'époque des stoïciens, à l'époque des Grecs anciens, ils avaient ce qu'ils appelaient des exercices spirituels. Donc, que tu mentionnes une sorte de, appelons ça, examen de conscience, ou en tout cas un bilan, par exemple, qu'on peut faire à la fin de la journée, de se dire, bon, mais comment j'ai vécu ma journée? Est-ce que j'ai vécu les vertus que je devais vivre? Quelles ont été les entraves à l'intérieur de moi-même qui m'ont empêché de vivre ce que je voulais vivre? Donc, ça, c'est un bon exercice qu'on peut faire. Mais on propose aussi des exercices très simples durant toute la journée qu'on peut faire à n'importe quel moment, et qui est de se demander, mais où est ma conscience? C'est-à-dire, où est ma conscience maintenant? Et ça, on peut le faire n'importe quand durant la journée. Et dire, tiens, je viens de me laisser absorber, ça fait 2 heures que je suis sur Facebook. Où est ma conscience? Elle est comme hypnotisée. Je me suis laissé hypnotiser et ça n'a pas de valeur véritablement. Donc, je fais juste comme un surf et je suis pas moi-même. Donc là, tout à coup, je me rends compte que j'ai laissé ma propre conscience entre les mains d'un pouvoir extérieur. Donc, si on peut se remémorer fréquemment, se poser fréquemment la question, tiens, où est ma conscience? Est-ce qu'elle est dans mon estomac? Est-ce qu'elle est dans ma recherche d'émotions, de stimuli émotionnels? Elle est où présentement? C'est intéressant. Parce qu'alors, on peut décider de dire, ben, ah, mais non, mais c'est pas ça que je veux vivre, c'est pas comme ça que je veux vivre. Et ça, on peut le faire une fois par semaine, ou on peut le faire une fois par minute, ou on peut l'avoir comme une sorte d'observateur de soi-même, d'être l'observateur de soi-même à tout moment, et pouvoir se rectifier notre propre existence à tout moment. Donc, c'est un exemple d'exercice qu'on se propose comme philosophe à Nouvelle Acropole. Je ne dis pas qu'on y parvient parfaitement, parce qu'alors on serait des sages, mais en tout cas, on se le propose au moins ponctuellement.
Merci.
Pour plus d'exercices, bien sûr, comme toi tu le sais, Didier, parce qu'il y a quelques personnes ici qui ont suivi nos ateliers de philosophie sur 15 semaines, donc on vous invite à vous intéresser à ça et éventuellement à vous y inscrire. Je pense qu'il y a une autre question, Michel.
Ah, il y a Iman qui a levé la main.
Iman. Bonsoir.
Allô, Iman.
Tout à l'heure, Charles mentionnait qu'on pouvait baser cette réflexion sur beaucoup de philosophies. Puis ce soir, vous avez choisi les stoïciens et le stoïcisme. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela?
Oui, monsieur.
Oui, bien sûr. Ben, c'est-à-dire que les circonstances historiques dans lesquelles s'est développé le stoïcisme, Iman, ressemblent beaucoup à nos circonstances à nous. Donc, il y a de ça quelques 2000 ans, eh bien, on se trouvait dans une situation avec une sorte de fascination pour les techniques, les technologies de l'époque, une sorte de corruption généralisée au niveau politique, de grandes disparités économiques, des gens très, très pauvres, des gens qui étaient esclaves et d'autres avec de grands pouvoirs économiques. Donc, on se trouvait dans une situation assez semblable d'un certain point de vue à la nôtre. Et c'est pour ça qu'on a pris cette philosophie qu'on appelle une philosophie morale. Parce que dans des temps où il y a de la souffrance, dans des temps où il y a des épreuves, il nous faut des ressources morales, des ressources intérieures. Et on a trouvé que le stoïcisme répondait bien à ce besoin de notre époque aujourd'hui, comme ce fut le cas pour nos compagnons qu'on ne connaît pas, mais d'il y a de ça 2000 ans environ.
D'autres questions? Ça répond, Iman, excuse-moi?
Oui, très bien, merci.
Merci.
Est-ce qu'il y en avait dans le chat? OK.
Très bien. Ben, parfait. Ben, écoute, merci Michel d'avoir été là avec nous. Merci à tout le monde. On est très, très content d'avoir pu initier ces soirées de laboratoire philosophique en Zoom. Nos corps sont confinés, mais nos esprits sont libres. Alors, j'espère que non seulement vous serez au rendez-vous dès la semaine prochaine avec notre prochain thème. Michel, est-ce que tu l'as sous la main, notre prochain thème de laboratoire?
Oui, le thème du prochain labo, ça sera « Pourquoi ne fait-on pas ce que l'on sait qu'on doit faire? » Donc, tout à fait à propos. C'est un long titre, mais qui, évidemment, est très philosophique et même stoïcien, si on veut.
Oui, donc, et évidemment, Michel, ça ne s'applique pas à toi et à moi. Nous, quand on décide de faire quelque chose, on réussit parfaitement. Mais oui. Bon, c'est pour les gens ordinaires, tu sais, qui, eux, ne réussissent pas toujours tout ce qu'ils entreprennent.
Exact. Donc, c'est ça. Comme on est tous dans le même bain, donc, on vit tous ça, de cette procrastination. Et c'est savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'on repousse ou même au niveau collectif, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, mais au niveau surtout individuel? C'est-à-dire, si nous, on se propose des choses, comment y arriver? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on on n'y arrive pas? Peut-être qu'on ne va pas dans la bonne direction, peut-être qu'on se trompe, peu importe. Mais tout à fait. Donc, ben, merci aussi à Charles pour la co-animation qui est une belle opportunité pour nous de vous rencontrer au-delà de nos quatre murs. Donc, d'arriver à contacter et rendre cette philosophie-là accessible. La philosophie, en fait, avec cette philosophie atemporelle qui est là sous la forme stoïcienne, bien qu'on aurait pu en parler beaucoup. Mais toute la philosophie nous dit, en fait, il y a une sagesse, il y a une connaissance, il y a des principes de la nature. Et puis, c'est à nous de les rencontrer, d'apprendre à vivre selon les lois de la nature, des principes de la nature. Et ça nous rend plus libres. En fait, paradoxalement, de connaître les lois nous rend plus libres. Donc,
super, mais merci. Merci à tout le monde. Michel aussi, on a des podcasts. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux vertus, qu'est-ce que c'est les vertus, le courage, tout ça. Donc, la générosité. Vous pouvez aller sur notre site de Facebook et on a des podcasts très intéressants. Et comme ça, même en période où tout le monde est un petit peu isolé, ben, on peut se relier tous et toutes avec de très grandes idées qui nous dépassent et qui nous englobent. Donc voilà, ben, merci aussi à Pierre, notre super technicien, à Daniela qui était votre accueil ce soir. Et puis on espère vous revoir tous et toutes très bientôt, soit en Zoom ou en personne, parce que je suis sûr que vous existez physiquement aussi.
Et on va traverser tout ça, cette crise, et puis on va se revoir plus tôt qu'on le pense, on espère.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette initiative.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée à tous.
Bye tout le monde. Bye.
Hey, Bouga.
Merci, bonne soirée.
Bye bye.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.